Bonsoir à tous et bonne année, vous écoutez Les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde. Et ce soir, 2011, année indignée, 2012, année de tous les dangers. Bonsoir et bonne année Nicolas Truong.
Bonsoir et bonne année Agnès Chauveau.
Cette année-là, il y a tout juste 50 ans, ce n'était pas simplement les débuts du succès de Claude François, mais c'est aussi, comme il est dit dans la chanson, celle de la disparition de Marilyn Monroe, du premier 45 tours des Beatles et de la sortie en France de West Side Story. Et de quoi, 50 ans après, sera fait 2012, l'année du dragon censé apporter santé et richesse à ses natifs. Serons-nous, comme en 2011, assaillis d'événements monstres, chers à l'historien Pierre Nora, qui écrivait déjà en 1974 que l'événement, à l'ère des mass médias, jeté dans la vie privée, offert en spectacle, devient monstrueux. Révolutions arabes, tsunamis, Fukushima, Dominique Strauss-Kahn, crise financière, crise de l'Europe, indignée, primaire socialiste, la liste des événements majeurs de l'année 2011 donne le vertige. Mais quels sont ceux qui s'inscriront dans les manuels d'histoire numérique des générations futures? D'ores et déjà, certains apparaissent comme de véritables tournants, à l'instar de la vague révolutionnaire qui est en train de changer la physionomie géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient. D'autres relèvent de l'écume des jours, comme la descente aux enfers de Dominique Strauss-Kahn. Certains, enfin, sont inachevés, comme la crise financière ou le mouvement des indignés, et nul ne connaît leur destinée. Alors, que nous promet 2012 ? L'euro va-t-il survivre ? L'Europe va-t-elle imploser ? Qui sera élu président de la République en France ? Barack Obama parviendra-t-il à résister à son challenger républicain ? Poutine résistera-t-il aux indignés russes ? Et en Chine, le Parti communiste, qui va renouveler ses dirigeants, parviendra-t-il à empêcher des troubles sociaux d'éclater ? Et quel sera l'avenir du printemps arabe, des transitions démocratiques et des autocrates en sursis ? Et pourquoi pas un printemps africain ? La crise financière finira-t-elle par délégitimer le capitalisme financier ? L'ADN du cancer livrera-t-il ses secrets ? Quel avenir pour le climat ? Sortirons-nous du nucléaire ? Alors, parce que Pascal nous disait déjà que toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte, vos retours ce soir se transforment entre Clio et Pity.
Tempête sur la zone euro, Fukushima ou même affaire DSK, de nombreux philosophes considèrent aujourd'hui que les crises que nous vivons sont des crises de civilisation. Pour analyser ce nouveau malaise dans la civilisation et dégager quelques pistes destinées à réenchanter un monde désorienté, nous avons décidé d'inviter à dialoguer les philosophes Michel Serres et Bernard Stiegler. Michel Serres, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour réfléchir à l'année écoulée et penser celle qui commence aujourd'hui, est issu de la génération de la guerre. En effet, ce Gascon, né en 1930 à Agen, ne peut encore regarder en face Guernica, le célèbre tableau de Picasso, et il répète volontiers qu'Hiroshima reste l'objet de sa pensée éthique et métaphysique. C'est à partir de cet événement qu'il a repensé l'optimisme scientiste et décidé d'établir un pont entre les sciences et les lettres. Au rugby, Michel Serres jouait troisième ligne, le poste du passage des avant aux arrières, de la mêlée aux trois quarts. Dépourvu de poste de philosophie à l'université, eh bien, il a joué les passeurs de savoir, ne cessant de naviguer entre les sciences exactes et les sciences humaines. Avec sa grande œuvre en 5 volumes, Hermès, il a démontré que la communication était l'horizon de notre temps. Avec le contrat naturel en 1990, il a développé, bien avant l'actuel battage médiatique, les ressorts philosophiques et politiques de l'urgence écologique. Depuis 2001, cet académicien et professeur d'histoire des sciences à l'université de Stanford aux États-Unis s'attache à penser l'humanisme universel qui vient. Michel Serres a récemment publié « Le temps des crises, Biogé, musique et tout récemment Habité, une exploration de l'habitat humain, mais également animal et végétal, aux bien nommées éditions du Pommier. Directeur de l'association Ars Industrialis, directeur de l'Institut de recherche de l'innovation au Centre Georges Pompidou, Bernard Stiegler, qui est également professeur à l'Université de Londres et à l'Université de technologie de Compiègne, est devenu philosophe à partir d'un accident de parcours. 5 années d'incarcération qui constituèrent 5 années d'intenses pratiques philosophiques. Il en rencontre dans Philosopher par accident aux éditions Galilée en 2004 et dans Passer à l'acte aux éditions Galilée en 2003. Après son grand ouvrage « La technique et le temps », paru en 3 volumes, toujours chez le même éditeur, et depuis « Aimer, s'aimer, nous aimer » du 11 septembre au 21 avril, il a orienté ses travaux sur la violence que la société contemporaine fait au narcissisme primordial des individus. Dressant l'inventaire des sociopathologies de notre temps, Bernard Stiegler se propose de construire des outils théoriques pour fonder une nouvelle société industrielle. Il a récemment publié « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », de la pharmacologie aux éditions Flammarion en 2010 et avec Christian Fauré et Alain Giffrard pour en finir avec la mécroissance.
14h46 à Tokyo ce vendredi. Les premières secousses d'un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter se font ressentir. Une demi-heure après les premières secousses, une violente réplique du séisme se produit dans le nord-est du Japon et fait trembler les immeubles de Tokyo. Une heure et demie après les premières secousses, un tsunami de 10 mètres déferle sur les côtes de Sendai, au nord-est du pays. La vague s'engouffre dans le port. À certains endroits, elle pénètre jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres, emportant tout sur son passage.
J'ai cru que j'allais mourir. C'était énorme.
Les caméras de la télévision japonaise restent braquées en permanence sur cette centrale de Fukushima. C'est ici que samedi, le bâtiment abritant le réacteur numéro 1 a explosé.
Je ne peux pas nier qu'il y ait une possibilité que le cœur du réacteur soit entré en fusion à l'intérieur du caisson.
L'Agence de sûreté nucléaire et industrielle a calculé le montant des particules radioactives rejetées dans l'air par la centrale de Fukushima. Compte tenu de ces informations et de l'état des réacteurs, cela correspond au niveau 7.
L'homme a fait beaucoup de dégâts, comme les gaz qui polluent notre atmosphère. Ce rassemblement est important pour faire prendre conscience aux gens du changement climatique produit par l'homme.
Tu ne me croiras jamais.
J'espérais que nous aurions plus de temps.
Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Ça commence. Les Mayas le savaient. La Bible, c'est la fin du monde, mes amis.
Bonsoir Michel Serre.
Bonsoir.
Bonsoir Bernard Stiegler.
Bonsoir.
Alors Michel Serre, vous venez de l'entendre dans les archives que l'on a diffusées. Le 11 mars, un séisme suivi d'un tsunami fait plus de 20 000 morts au Japon. Au désastre qui transforme les villes entières en tas de débris s'ajoute les jours suivants un accident nucléaire majeur, le plus grave depuis Tchernobyl, une série d'explosions dans la centrale de Fukushima. Le Japon a donné un vrai spectacle de fin du monde. Est-elle pour bientôt ?
Écoutez, dans les documents que vous venez de passer, il y en a de très sérieux, bien sûr, et puis d'autres qui font rire quand même. Paco Rabanne, ça ne fait pas vraiment très sérieux.
Alors, c'est le film La fin du monde.
J'ai l'impression, si vous voulez, que si vous associez les deux, vous risquez de collaborer avec la vague de pessimisme qui passe devant nous. Et ça, non, il faut dire aux auditeurs que ce n'est pas sérieux et qu'il ne faut pas...
Etc. Vous ne croyez pas à l'apocalypse le 21 décembre 2012.
Je ne crois pas à la fin du monde. D'ailleurs, il y en a une autre qui est prévue, je crois, pour l'année prochaine.
Bon,
c'est aussi peu sérieux que celle de Paco Rabanne. Bon. Puis de toute façon, la fin du monde, ça a eu lieu 5 fois, vous le savez. il y a 300 millions d'années, 500 millions d'années, etc., où en effet un accident dont on ne sait pas très bien l'origine a détruit 94 à 99% des espèces vivantes et dont nous sommes, nous, les successeurs, tout simplement. Il y a eu cinq accidents de ce genre, ce qui ont sans doute été causés par le choc de météorites géantes. Et voilà, ça, c'est donc déjà arrivé, et ça peut arriver, mais ils sont protégés par Jupiter, vous le savez. Jupiter est l'attracteur des météorites géantes.
Voilà. Mais tout de même, est-ce que cette tragédie japonaise qui rassemble trois types de cataclysmes, est-ce que c'est une crise
dans cette
majeure
affaire, c'est de le comparer avec le tremblement de terre de Haïti. Le tremblement de terre de Haïti était de 5.0. Et moi, je me rappelle, 7.0, pardon, à avoir assisté moi-même à 7.5, 7.8 à Palo Alto, quand j'enseignais. Et en effet, c'est un séisme qui est vraiment très, très important. Mais celui d'Haïti a causé combien ? 220 000 morts, vous vous rappelez ? Et comment ça se fait qu'on n'en parle plus ? Combien de morts à Fukushima ? 50 ? 60 ? Bon, à Haïti, 200 000, 220 000. Là, ça me paraît important de faire la comparaison.
Mais
vous
pardonnez-moi,
voyez
Michel Serres.
Et là, attention, c'est un séisme de 8,9. C'est-à-dire, depuis l'échelle de Richter, il n'est pas encore arrivé de 9. Alors, c'est le premier.
Mais je m'adresse aux philosophes et aux philosophes des sciences que vous êtes. Oui. Vous ne pouvez pas observer les événements uniquement d'un point de vue quantitatif, du point de vue du nombre de morts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une sorte de croyance, de religion, du progrès qui s'est effondrée là, avec Fukushima, comme elle a pu s'effondrer au moment d'Hiroshima ?
Elle s'est effondrée au moment d'Hiroshima. Et je suis le premier à l'avoir dit, excusez-moi, j'ai fait un article à cette époque-là, au moment d'Hiroshima, enfin un peu après, qui s'appelait la Thanatocratie, et où je comparais vraiment l'idée que les scientistes ou les savants de la génération d'avant moi, disait que la science était toute bonne et seule bonne, et qu'il y avait savez-vous, par exemple, que les physiciens de la génération d'avant moi ont été responsables de tous les grands progrès de la biochimie, parce qu'ils avaient quitté la physique pour la biologie, parce qu'ils avaient des remords de conscience sur Hiroshima. Voyez. Donc la crise de conscience dure là. Et Fukushima est loin derrière. Voyez. Et je crois là. Et c'est pour ça que je réagis un peu violemment, parce que vous avez associé ça à la fin du monde. Non, non, non. En effet,
on est rassuré,
c'est
alors,
un 8,9, c'est un 8,9 qui est un effet exceptionnel. Et là, c'est très important. Mais par rapport à Haïti, il y a eu 220 000 morts. C'est gigantesque. À côté de Fukushima, qui a fait un événement sensationnel du point de vue des médias. Mais moi, je suis toujours touché. Regardez, le 7,2 ou 4 de Loma Prieta que j'ai moi-même ressenti, c'était exactement 37 morts. Le 7,0, c'est 220 000 morts. Combien de morts à Hiroshima, Fukushima, environ 50. Du point de vue humain, il faut comparer ça.
Non, Bernard Stiegler, les catastrophes extrêmes sont quand même... On a l'impression qu'elles sont de plus en plus nombreuses, alors peut-être à tort ou à raison. En tout cas, elles sont dans le collimateur des scientifiques et des statisticiens. C'est vrai qu'il y a deux décennies qui ont été les pires, qui nous semblent les pires qu'a connu la planète depuis 1950, des inondations, des tempêtes, etc. Juste avant la conférence de Durban, le GIEC a anticipé un avenir climatique assez cataclysmique. Et vous, dans votre ouvrage, vous parlez d'apocalypse étreignant le genre humain qui se sait désormais capable de s'autodétruire. Alors comment on peut inventer un autre chemin et comment vous regardez par exemple la conférence, le sommet de la Terre qui va avoir lieu à Rio au mois de juin prochain?
Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais réagir sur ce que vient de dire Michel Serres. Il est tout à fait vrai que Haïti a été beaucoup plus mortel. Maintenant, il y a des événements qui sont porteurs, vous le savez bien, on citait tout à l'heure Pierre Nora, l'événement Mons, il y a des événements qui sont porteurs. Un événement, en fait, qu'est-ce qu'un événement ? Ce n'est pas un instant, c'est un processus.
Aussi.
C'est un processus. Et le sentiment que nous avons tous eu, et j'en parlais même au Centre Pompidou, puisque j'ai accueilli le professeur Ishida, qui faisait une conférence sur Fukushima, au Fukushima aujourd'hui. Le sentiment que nous avons tous eu, et que nous avons toujours, et même peut-être plus que jamais, avec la catastrophe, la triple catastrophe du Japon, de mars de cette année, c'est d'une combinaison d'événements. Et d'une potentialisation par cette combinaison qui fait que, par exemple, à Haïti, effectivement, il ne risquait pas d'avoir d'accident nucléaire, parce qu'Haïti a eu 220 000 morts, parce que c'est un pays qui est sous-investi, si je puis dire, hein, et dans une grande misère. Mais la catastrophe de Fukushima a été produite dans un pays où on est très fortement protégé des tremblements de terre. J'ai moi-même été à Tokyo il y a un an, un petit tremblement de terre, et j'ai vu la résistance incroyable de la ville de Tokyo au tremblement de terre. Mais en même temps, avec un tel investissement industriel sur le territoire que finalement, ce sont d'autres. Il y a des enchaînements catastrophiques qui se produisent. Et pour la question de la fin du monde.
Bernard Stiegler, quand vous dites que c'est une catastrophe qui revêt trois facteurs, vous diriez, comme le philosophe Jean-Pierre Dupuis, que cette tragédie japonaise de Fukushima rassemble trois types de cataclysmes habituellement distingués, qu'elle est à la fois, au fond, naturelle, morale et industrielle, et qu'elle fait donc vaciller une grande part de notre croyance au progrès aujourd'hui, même si,
elle
bien
fait,
entendu,
elle fait moins de morts que quelque chose. Une croyance, pas certainement au progrès, parce que le progrès, c'est une notion du 19e siècle. Le 20e siècle, c'est la consommation. C'est le monde. Vous avez mis en introduction à cette émission, Claude François, 1962, 50 ans. Eh bien, c'est pas la fin du monde que nous vivons, c'est la fin d'un monde.
C'est la fin d'un monde,
mais elle va être... très douloureuse, cette fin d'un monde, parce que c'est un monde consumériste qui a accumulé des bombes démographiques, environnementales, mentales, etc. Innombrables. J'ai quand même été très frappé cette année de voir le journal Le Monde publier en manchette ce titre, d'ailleurs un petit peu excessif, j'ai trouvé, hein, « La télé tue ». Bon, à l'intérieur, ça n'était pas la télé, c'était la télévision détruit l'attention. Bon, j'étais content que Le Monde en parle, d'ailleurs,
parce que votre livre, La Télécratie,
était consacré à cela, La Télécratie, mais surtout Prendre Soin, où j'analysais précisément quasiment tous les auteurs américains qui étaient cités dans cet article, où nous avons découvert, depuis 2007, c'est une enquête officielle publiée par Pediatrics aux États-Unis qui a montré que la synaptogenèse infantile est modifiée véritablement et de manière grave par l'exposition médiatique prématurée.
L'attention est coupée en morceaux.
Voilà. Oui, c'est sûr. Et il y a une combinaison de tout cela. Alors, par rapport à votre question, Durban et Rio, la question qui se pose, c'est la question dont parlait Michel Serres tout à l'heure à propos de l'autocratie, mais dont Paul Valéry, en 1919, avait déjà annoncé quelque chose, qui est, et c'était dans ce sens-là, la citation que vous faisiez de mon livre tout à l'heure, c'est dans ce contexte-là qu'elle prenait place, c'est le discours de Paul Valéry en 1919, disant « Nous avons découvert que les civilisations sont mortelles », et il ajoutait « La science et la morale peuvent se retourner en leur contraire, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir exactement au service du contraire de ce pour quoi nous avons conçu. L'année 2011, pour moi, aurait été l'année au cours de laquelle la planète entière a découvert ce que j'appelle le caractère pharmacologique, non pas simplement du progrès, mais de toutes les techniques humaines et de tous les savoirs humains. Les savoirs humains que nous avons vécus pendant, disons depuis Platon, jusque pratiquement au début du XXe siècle, comme étant une chose porteuse nécessairement de progrès, d'évolution, de civilisation, peuvent se renverser. Alors, à partir de là, moi je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une prise de conscience planétaire qui sème une panique, qui enchaîne ensuite sur des crises financières, etc. Et tout ça fait, j'appellerais ça une hyper systémique en fait. C'est pas simplement une crise systémique, c'est une crise hyper systémique. C'est-à-dire, la crise systémique financière fait système, si je puis dire, avec la crise systémique du climat, par exemple, qui fait système avec la crise systémique de la démographie. Et tout cela fait une crise hyper systémique qui crée de la panique. Et la difficulté 2012, qui va être une année très difficile en effet, c'est une évidence, ça va être de savoir anticiper, projeter une sortie dans un autre monde, parce que si un monde est fini, un autre est à inventer. Ça, c'est magnifique, c'est passionnant, et en même temps, c'est l'année de tous les dangers.
Mais Michel Serres, justement, vous écriviez déjà en 1990 que dans le contrat naturel, que la nature doit être au cœur du débat politique. On est quand même... Vous parliez à l'instant, Bernard Stiegler, de prise de conscience, mais on est encore un tout petit peu loin quand même de cette prise de conscience.
Ah, on est loin de la prise de conscience, mais beaucoup de gens comme mon voisin et moi-même, nous sommes conscients de cela depuis déjà plus de 20 ou 30 ans. La question de la mise en question de la confiance de l'humanité dans le progrès date déjà d'un demi-siècle, à mon avis. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque je suis sorti de l'école normale, puisque vous avez parlé un peu de ma vie, j'étais épistémologue, c'est un gros mot. Ça veut dire philosophe des sciences, historien des sciences, qui se permettait de regarder un peu les méthodes et les résultats des sciences, et de juger un peu. Et nous étions combien sur la planète en 1952 de ce métier-là? Nous étions moins de 10, on se téléphonait, on se connaissait, etc. Bon, aujourd'hui, vous prenez un micro-trottoir et vous posez la question à n'importe qui, il a des opinions sur les mers porteuses, sur le climat, sur le nucléaire, etc. Tout le monde est épistémologue. Et là, il y a à la fois une mauvaise nouvelle, en effet, la défiance dont parle Bernard Siegler, mais aussi une très bonne nouvelle, il en parle aussi, c'est-à-dire que tout le monde a pris en main, a pris conscience de ce problème et a en jugé. Il y a une sorte de démocratie du savoir et de la décision qui est en train de naître.
Alors Michel Serres, pourquoi votre contrat naturel ne passe-t-il pas par une sortie du nucléaire au fond? On pourrait imaginer que ce que vous avez dessiné dans ces années-là pouvait vous conduire à proposer une sortie du nucléaire. Or, vous dites même que tout écologiste sérieux devrait être pour le nucléaire. Que faut-il entendre par là ?
C'est-à-dire la question centrale aujourd'hui étant la question du climat, puisque Bernard Stiegler vient d'en parler, elle est systémique aussi, c'est une crise très grave. La question est l'émission du CO2. Alors à cette époque-là, quand j'ai écrit ça, je disais au fond, l'industrie nucléaire est la seule qui ne produit pas beaucoup de CO2. Voilà, c'est la question. Et beaucoup d'autres industries qui seraient énergétiques, si vous voulez, produisent énormément de CO2.
Justement, Bernard Stiegler, vous qui voulez en finir avec la mécroissance, le système consumériste, etc.
Oui, que
pensez-vous de l'avenir du nucléaire ?
Moi, je pense que le nucléaire est une affaire en disparition. Je le crois, non pas parce que rationnellement il faudrait arrêter, mais parce qu'il s'est passé quelque chose après Fukushima, et qui a par exemple abouti à la décision de Siemens de rompre ses accords avec EDF et de massivement investir dans les énergies dites renouvelables. Maintenant, je crois que la question fondamentale, ça n'est ni le nucléaire en tant que tel, ni les énergies non renouvelables, c'est un changement de système.
Quoi, au sujet
à l'intérieur duquel, le problème, c'est la nature des réseaux. Le problème de l'électricité, la production énergétique, mais pas seulement de l'électricité. L'électricité est majeure parce qu'on peut tout transformer en électricité, donc c'est un vecteur de toutes les autres énergies. Le problème, c'est la modification des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sont centralistes. Il y a des centrales thermiques, nucléaires, hydroélectriques, etc. Et puis, il y a une distribution vers des consommateurs. Demain, ça a été dit d'ailleurs il y a un mois dans un congrès par le directeur du développement de ERDF, qui est donc le réseau électrique français. Demain, l'avenir, c'est les smart grids qui sont multidirectionnels comme Internet. Et donc, c'est une société contributive. Ça n'est plus une société de consommation. Avec une responsabilité partagée sur la production.
Je l'ai dit il y a déjà 20 ans. Et c'est-à-dire que nous étions à la fin d'une société de concentration et qu'on devait être dans des sociétés multidistributionnelles. Ça, je l'ai dit il y a déjà 20 ans. Et ça, j'y tiens beaucoup, en effet, parce que tout est concentré et c'est la concentration, en effet, qui est l'ancien monde. Et le nouveau monde sera, en effet, déconcentré. Il n'y a pas de doute sur ce point.
La chancelière allemande s'est dit déterminée à résoudre la crise de la zone euro. Aujourd'hui, a-t-elle dit, il s'agit d'envisager la meilleure manière pour faire du fonds de secours européen l'outil le plus puissant possible pour éviter une contagion de la crise.
Alors, l'euro aurait pu être la meilleure des choses. Il faut le dire, l'euro n'est pas destiné à être ce carcan qui va étouffer l'économie européenne, mais qui de fait l'est devenu.
Michel Serres, depuis le 11 juillet, les marchés boursiers de la zone euro ont commencé une longue dégringolade, sanction de l'indécision des dirigeants de l'Union européenne concernant la Grèce et l'avenir de la monnaie unique. Mais pour vous, vous avez une très jolie formule, la crise n'est qu'une toute petite ride sur la surface du monde.
Mais c'était peut-être un peu exagéré, mais au fond, à cette époque-là, je pensais ça. C'est-à-dire, nous vivons depuis déjà, disons, 40 ans, 50 ans, une transformation et une crise tellement profonde qui touche l'anthropologie, qu'aujourd'hui, cette crise-là me paraissait circonstancielle. Bon, elle ne l'est sans doute pas, mais si vous voulez, si vous la comparez, je prends deux ou trois...
De quoi est-elle le nom pour vous, alors, si elle ne l'est pas ? Si elle n'est pas que conjoncturelle, de quoi est-elle le nom, cette crise financière ?
Si vous prenez un certain nombre de circonstances qui sont passées depuis les années 70, par exemple, nous étions à cette époque-là, combien de pourcents de paysans ? En 1970, etc. À la fin du siècle, on est 1% de paysans. Donc le rapport au monde a complètement changé, dès lors qu'il n'y a plus qu'1% de paysans parmi nous dans les pays analogues aux nôtres. Deuxièmement, lorsque je suis né, on était entre 1,5 et 2 milliards d'habitants. On est aujourd'hui 7 milliards d'habitants. La croissance démographique est verticale. La croissance de la productivité est verticale. La croissance de l'espérance de vie est aussi verticale. C'est-à-dire, dans les années 1850, Musset pouvait dire « Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimé, 6 ans pour aimer et 3 ans pour recommander votre âme à Dieu ». C'est-à-dire, l'espérance de vie est de 30 ans. Aujourd'hui, pour nos compagnes, vous-même, madame, c'est 84 ans. Par conséquent, là, il y a un changement. Alors, changement par rapport à l'espace, changement par rapport à la nature, changement par rapport à la vie, changement par rapport à la naissance, changement par rapport à la mort, à l'espérance de vie. Et puis, celle d'espérance de vie change beaucoup de choses. Par exemple, lorsque des jeunes se mariaient en 1900, ils se juraient fidélité pour 5 ans. Aujourd'hui, quand des jeunes se marient, ils se juraient fidélité pour 60 ans. Ce n'est pas le même mariage, vous voyez. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Et ainsi de suite. La transmission des biens, c'est la même chose. Mon père ou mon grand-père, à 30 ans, pensait hériter. Aujourd'hui, à 60 ans, on n'a pas encore hérité. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça transforme complètement la société. Et ces événements qui sont en effet tous de système, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et des événements qui ont complètement changé en profondeur, disons, l'anthropologie, la racine anthropologique, et dont les crises d'aujourd'hui me paraissent simplement des conséquences ou des...
C'est ça, vous expliquez dans vos livres, Michel Serres,
oui.
Que notamment le temps des crises, oui. Que cette crise que nous vivons, en fait, est un des effets de, cette, cette grande rupture, de cette grande coupure anthropologique, oui. Vous venez de l'expliquer, plus que 1% de paysans, oui. La majorité de la planète vit maintenant, aujourd'hui, dans des villes. Oui. Mais vous expliquez que cette crise, elle vient du fait que nos institutions...
Ah oui.
Et ça rejoint une problématique de Bernard Stiegler, oui. Que nos institutions aujourd'hui, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital,
l'université,
la représentation politique, le Parlement, etc., ne sont précisément plus adaptées à cette nouvelle donne. Bernard Stiegler, est-ce que vous considérez que la crise que nous vivons est une crise aussi anthropologique, telle que l'a définie et détermine Michel Serres ? Et est-ce que vous pensez qu'elle est également, puisque c'est le sujet de vos recherches, l'effet d'un immense, cette crise du crédit et celle d'un immense discrédit jeté sur la sphère financière, politique, institutionnelle générale.
Oui, ça je le crois. Je crois tout à fait qu'il y a une rupture anthropologique. Je suis absolument d'accord avec tout ce que disait Michel Serres à ce sujet. Je crois qu'il y a un feuilletage de crise et qu'il faut défeuilleter. Et nous sommes à un moment où ces différents feuillets s'articulent les uns avec les autres et font système, ou ce que j'appelais tout à l'heure hypersystème. Et c'est ça qui est très complexe à penser. C'est ça qui fait des temps que nous vivons des temps vraiment critiques au sens médical du terme. Donc des temps de décision irréversible. Alors, par rapport à cela, quant à votre question sur le discrédit des institutions, le discrédit notamment des institutions de savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une institution de savoir ? La famille est une institution de savoir. On apprend le savoir, pour moi, ce n'est pas simplement le savoir théorique ou le savoir académique. C'est le savoir vivre. Savoir ne pas faire pipi dans sa culotte, savoir retenir ses envies, savoir manger, savoir tout ça. L'homme est un être qui doit être intégralement éduqué. Absolument tout ce qu'il fait est l'objet d'un apprentissage. Ce n'est pas le cas des animaux. Et ces apprentissages-là, aujourd'hui, ont tous été liquidés par la société consumériste. Je dis bien tous. Par exemple, apprendre à contrôler ses pulsions. Des petits enfants qu'on voit aujourd'hui dans les lieux publics, à Dominique Strauss-Kahn, en passant par d'innombrables autres, dans toutes sortes d'institutions très visibles d'ailleurs, ne le savent plus, y compris les marchés financiers.
Donc après le réveillon du jour de l'an, votre parole va nécessairement porter.
Alors voyez, le réveillon du jour de l'an, à quoi ça sert, une fête comme un réveillon? Ça sert précisément à libérer de temps en temps ces processus, mais dans un processus de sublimation, c'est-à-dire en l'honneur de quelque chose, dans une calendarité, et avant réveillon du jour de l'an, il y a celui de Noël, et à l'époque, c'était donc la commémoration de la naissance du Christ. Et donc, la construction de notre société, puisque nous sommes, moi je ne suis pas chrétien, mais nous sommes dans une société chrétienne. Et ça, c'est absolument fondamental. Vous parliez de l'année du dragon, de la même manière, en Chine, il y a une calendarité qui est liée aux astres, etc. Et toute société est basée là-dessus. Ça a été détruit depuis 1962. Je dirais depuis 1962.
Quel est le nouveau système aussi, Bernard Stiegler? Parce que vous nous dites, la société consumériste, la société capitaliste, tout ça c'est terminé, c'est fini, on est dans une période de grande transformation, mais vous nous parlez d'intelligence collective qui permettra une économie innovante, une économie contributive. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu quel est le prochain système dans lequel on va arriver, peut-être dès 2012?
Je crois qu'avec Michel Serre nous sommes vraiment profondément d'accord sur ce sujet. Nous sommes en train de vivre une reconstruction d'un espace de savoir. La société de demain, c'est une société savante. Oui. D'ailleurs, je sors un livre bientôt, on a failli l'appeler avec Philippe Mérieux, là, au mois de janvier. On a failli l'appeler la société savante, la nouvelle société savante. Pourquoi? Parce que quelque chose de nouveau est en train d'émerger avec le numérique.
Tout le monde est épistémologue,
qui fait que des pratiques de savoir se redéploient et que, contre le consumérisme, des pratiques, surtout dans la jeunesse, mais pas seulement, aussi chez les seniors, chez les gens qui sont à la retraite. Mon papa, par exemple, qui est encore vivant, fort heureusement, est beaucoup branché sur ces choses-là. Il est âgé, hein, bon. Mais il est très articulé là-dessus. Il y a toutes sortes de pratiques qui se développent. Or, ces pratiques produisent de la valeur. Jérémy Rifkin a publié un livre qui est problématique, hein, l'économie de l'hydrogène, et puis il en a reparlé dans son dernier livre. C'est un livre que, les livres de Rifkin, en règle générale d'ailleurs, sont souvent porteurs de choses très intéressantes et en même temps de choses un peu problématiques. Mais il y a des aspects problématiques, mais il a dit une chose très importante dans ce livre, c'est que les systèmes énergétiques et les systèmes de communication sont toujours articulés dans leur évolution. Et je le crois profondément. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, le réseau énergétique de demain, c'est un réseau de communication et pas simplement de transmission d'énergie. Et je pense que c'est vrai dans tous les domaines. Par exemple, j'en ai d'ailleurs parlé sur France Culture récemment, Patrick Bouchain, avec qui je travaille en ce moment.
L'architecte.
L'architecte Patrick Bouchain, avec lequel nous intervenons sur l'île de Nantes à la demande de Jean-Marc Ayrault. Patrick Bouchain développe une économie de l'habitat social contributive, où les habitants peuvent terminer leur logement eux-mêmes, valoriser en capital, c'est-à-dire en part sociale sur la propriété collective.
Comme les logiciels libres un peu.
Comme les logiciels libres. Et c'est un modèle qui se développe absolument partout en ce moment. Pendant ce temps-là, Heineken fait une campagne de communication en disant « Consommez moins de bière Heineken ». C'est-à-dire que Heineken essaye maintenant d'intégrer le fait que le consumérisme... Vous savez que 81% des Américains ont déclaré en 2007 que le consumérisme était mauvais pour l'Amérique. C'est une enquête qui date d'avant la crise. Alors, vous imaginez après la crise, 81%. Donc tout ça est en train de muter. Le problème, c'est que les agences de notation, qui sont très pulsionnelles, qui veulent tout de suite, comme le gang des barbares, ils veulent tout de suite, sont en train de détruire le rapport à l'avenir, et en fait c'est un choc tellurique. Ce n'est pas simplement un choc du Japon, c'est un choc tellurique entre un monde qui disparaît, mais qui veut, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, Total gagne beaucoup d'argent dans le système actuel, et un nouveau monde qui apparaît, et là, évidemment, 2012 va être une zone de fracture évidente par rapport à ce processus.
Michel Serres, vous avez aussi, vous, des propositions, puisque dans un texte que vous avez publié cette année dans Le Monde, où vous montriez qu'entre 1900 et 2011, tout a changé pour les écoliers qui vivent à présent dans le virtuel et dans une société multiculturelle. Vous expliquez que face à ces mutations, sans doute convient-il d'inventer d'inimaginables nouveautés hors les cadres désuets qui formatent encore nos conduites, nos médias, nos projets adaptés à la société du spectacle d'aujourd'hui. Et vous dites Je voudrais avoir 18 ans, l'âge de petite poussette et de petit poussette d'aujourd'hui, puisque tout est à refaire, puisque tout reste à inventer. Qu'y a-t-il à inventer aujourd'hui, mais précisément, pour faire face à cette nouvelle donne dont vient de parler Bernard Stiegler?
Exactement, tout. Et Bernard Stiegler a parlé simplement de la société du savoir, par lequel je suis tout à fait d'accord, qu'il faut changer complètement non seulement la pédagogie, mais même les institutions, et même l'architecture même des universités. Ce qui m'a ébloui à Stanford quand j'y étais, enfin, j'y suis encore, bien sûr, c'est que lorsque on a voulu faire un nouveau campus à côté de l'ancien qui est construit à la fin du 19e siècle, qui est en briques, qui imite les monastères, ils ont construit à côté, avec l'argent de Bill Gates, des buildings qui sont construits sur le même plan que le monastère primitif et qui enseignent l'informatique. Vous voyez, on a l'impression que le monde est né, mais qu'on n'a pas du tout les réactions pour nous adapter à lui. Alors qu'il faut changer l'architecture des universités, les universités, changer l'enseignement. Mais bon, Bernard Stiegler vient de le dire. Mais c'est vrai aussi pour la santé, c'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour la politique.
Un exemple pour la société savante, par exemple. Comment faudrait-il réformer? Que faudrait-il faire pour l'école ou l'université? Juste un exemple très concret pour qu'on puisse comprendre quelle est la nature, au fond, de cette révolution auquel vous appelez.
Si la société du savoir existe, si chacun, en effet, est porteur d'un certain type de savoir, de jugement, etc., il faut renverser. C'est tout simplement le vecteur enseignant-enseigné. C'est-à-dire, avant, il y avait du savoir qu'on enseignait à quelqu'un qui est ignorant. Aujourd'hui, mes étudiants ne sont pas ignorants. Et il suffit qu'ils aient regardé sur Internet et sur Wikipédia le sujet que je vais expliquer pour qu'ils soient à égalité avec moi. Par conséquent, la pédagogie est en train de se renverser. Et c'est vrai que beaucoup de mouvements sont en train de se créer pour ça. Et c'est ça, le nouveau monde. Mais ce nouveau monde-là, auquel j'assiste à sa naissance en ce moment, eh bien, c'est vrai pour la politique. Aujourd'hui, en effet, la plupart des gens en France, ou à peu près la moitié, sont en désaccord complet avec le cirque politique des élections de 2012. Vous voyez ? Donc il faut inventer autre chose.
Alors vous êtes sur France Culture, vous écoutez les retours du dimanche et ce soir, 2011, année indignée, 2012, année de tous les dangers avec Michel Serres et Bernard Stiegler. En débat, les catastrophes écologistes, la crise de l'euro, la crise financière, la crise de civilisation et à présent la colère des peuples et les révoltes arabes.
تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل خلينا نحكي مادام القلب مسال يتكلم مادام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم الحرب بدات مادام مازلت نشوف الظلم مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف قلب المواطن تعبى من العذاب كل فلوس والمناصب طيشونا كل كلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من اللي صغار بالسياسة راي خطينا سكتونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم صدعتوا شباب ماشي فرلمان جو طبطبوا
Hosni Moubarak est derrière tout ça, il doit partir. Moubarak doit partir. Les Égyptiens nous tuent. Le régime égyptien est en train de nous tuer.
C'est à Rome que la mobilisation a pris le plus d'ampleur. 30 000 personnes environ ont marché dans la ville, mais la manifestation a dégénéré et de nombreux et intenses affrontements ont eu lieu avec la police anti-émeute. En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de contestataires à Berlin, Hambourg, Leipzig et devant le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort.
Michel Serres, année 2011, année indignée, au point que le magazine américain Time désigne comme personnalité de l'année une figure anonyme, The Protester, le manifestant. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture, mais on voit un jeune avec un bonnet et un foulard sur la bouche. La légende, c'est personne n'aurait pu prédire que le suicide d'un vendeur de fruits tunisien dans un jardin public allait entraîner des protestations qui renverseraient des dictateurs et feraient naître une vague mondiale de rébellion. Donc en 2011, ces manifestants n'ont pas simplement fait entendre leurs plaintes, ils ont changé le monde. Pensez-vous, à l'instar de Time, que ces manifestants qui ont déjà changé l'histoire changeront l'histoire à l'avenir ?
Vous ne trouvez pas intéressant que précisément un média américain spécialisé dans le spectacle donne comme personne de l'année, en général, la personne en question, c'est une femme, un homme, qui a un prénom, un nom, etc., et qui précisément donne un anonyme. Et tout d'un coup, le spécialiste de l'ancien monde, c'est-à-dire le média en question, c'est l'ancien monde, c'est la société du spectacle au sens de Debord, a tout d'un coup l'intuition du nouveau monde qui apparaît. C'est-à-dire que le héros, c'est un anonyme. C'est un anonyme qu'on va amener au Panthéon. Vous voyez, comme si toute l'histoire antérieure avait disparu et que toute l'histoire qui nomme les riches, les généraux, les stratèges, les rois, etc., était complètement balayée et qu'aujourd'hui, l'important, c'est l'anonyme. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. On a l'impression que là, il y a une intuition sur le nouveau monde qui vient. Et de fait, dans les printemps dont vous parlez, c'est une foule anonyme. Et tout le monde se dit et se demande dans les médias, mais qui va commander? Et on pose toujours la question, qui? Comment il va s'appeler celui-là? Est-ce qu'il va s'appeler Nicolas, comme notre ami ici, ou, etc. Et là, on dit anonyme. Mais on a l'impression que de quelque chose qui arrive, là. Et alors, ce qui m'a passionné, c'est l'anonymat.
Alors, est-ce que, Bernard Stiegler, est-ce que cet anonymat vous intéresse? Puisque vous vous intéressez précisément, vous avez forgé ce concept d'amateurat, puisque dans votre nouvelle société industrielle, la place de l'amateur est centrale. Mais pour revenir à la question des indignés, effectivement, elle a marqué cette année. Est-ce que c'est l'effet, précisément, d'une sorte de résistance, et non plus de résignation à l'égard du discrédit et de la défiance à l'égard des institutions politiques aujourd'hui?
Je crois que c'est l'effet de l'émergence d'une nouvelle chose publique. L'anonyme, c'est le public. Le public est anonyme. Quand vous dites « j'ai un public aujourd'hui au Centre Pompidou, ou au Théâtre de la Bastille, ou mon public de mes livres », vous ne savez pas qui est ce public. Vous savez bien entendu pour une partie, mais le public, c'est l'anonyme par nature. Bon. Et c'est très très important de rappeler... Puisqu'on a parlé du printemps arabe, le printemps arabe, ça commence en Tunisie, par, vous le savez bien, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, un suicide que moi j'ai toujours appréhendé comme un sacrifice, parce que s'immoler par le feu, ça a quand même un sens symbolique, à mon avis,
irréductible. Je signale qu'il y a un professeur à Béziers qui a fait la même chose il y a 3 semaines. Qui que s'est immolé par le feu, qui s'est immolé par le feu dans la cour de récréation, en disant je fais ça pour vous, en s'adressant aux étudiants, et que ça n'a pas été tellement relayé.
Mais non.
Non. Alors que c'est aussi important dans notre enseignement et l'évolution en question que le suicide par le feu dont parle Bernard.
Et c'est un signe pareil. De désespoir de même ampleur.
C'est un signe porteur, il n'y a pas de doute.
Tout à fait. Ça s'est combiné, ce sacrifice de Mohamed Bouazizi, avec l'annonce par Wikileaks des câbles diplomatiques des renseignements, des services de renseignement, des services secrets américains sur les malversations tunisiennes de la famille de Ben Ali, et avec évidemment la réticulation Facebook, c'est-à-dire les nouveaux réseaux sociaux.
Est-ce que vous pensez qu'on assiste à la naissance d'un nouvel espace public?
Oui, j'en suis absolument convaincu.
Aucun doute. Aucun doute,
hein. Et je pense qu'il faut le connecter avec les questions dont nous parlions tout à l'heure, avant, quand vous demandiez des exemples sur la société savante. Qu'est-ce que c'est que cette société savante? C'est la société que constitue un nouvel espace public, comme à l'époque de Luther, une nouvelle société savante a émergé avec un nouvel espace public constitué par l'imprimerie.
Et par ailleurs... Luther a commencé par l'imprimerie, et en effet, les sociétés savantes ont commencé avec l'écriture au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça s'appelait la paideia en Grèce. Ensuite, ça a été, comme vous le dites, en effet, Luther avec l'imprimerie, et aujourd'hui, il est naturel que la troisième révolution concernant les nouvelles technologies donne à peu près, disons, les mêmes résultats. Exactement.
Et un enjeu fondamental de tout cela, c'est d'articuler le politique, l'académique, prends le mot académique au sens de Platon, au vieux sens du terme, et l'économique. Et c'est absolument crucial, parce que nous sommes en train de vivre l'émergence d'un nouveau système de publication. Le numérique, c'est un nouveau système de publication qui ouvre un nouvel espace public, donc une nouvelle chose publique, donc une nouvelle chose politique, mais aussi un nouvel espace de débat public, c'est-à-dire de science. Parce que la science, c'est du peer-to-peer, la science. On dit le peer-to-peer en pensant à MP3 et au site Casa d'échange de fichiers musicaux, mais le peer-to-peer, ça commence avec Platon. Ça commence avec les Grecs même, avant Platon.
C'est
pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est qu'un effet concret du développement numérique, c'est le développement de ce que j'appelle la recherche contributive, qui va articuler, comme Kant en parlait déjà dans le conflit des facultés, qui va articuler le cœur de l'université avec son dehors, à travers quoi ? Une nouvelle forme de l'écriture qui est le numérique. Le numérique, c'est la forme moderne de l'écriture.
Bernard Stiegler, est-ce que précisément cette nouvelle économie numérique, ce nouvel espace public ne va-t-il pas créer de nouvelles mobilisations politiques telles que nous les avons vues là. Et qui précisément sont caractérisées par certains politologues comme des révolution, des révoltes post-léninistes, c'est-à-dire sans leader. Il y a effectivement au sein du mouvement des indignés une sorte de crainte du leader, une méfiance à l'égard des chefs et des partis institués. Les indignés veillent au renouvellement des postes à responsabilité, évitent de réaliser en pratique ce qu'ils dénoncent en théorie. Est-ce que nous assistons également à l'émergence là, d'une nouvelle puissance politique, une nouvelle multitude, comme diraient
c'est
certains
évident, c'est
absolument
évident.
Évident, mais ça suppose, c'est en cours d'émergence, c'est-à-dire que c'est un nombre en développement, qui est fragile,
et on sait
qui
pas
est
où
peut-être
ça va.
Instrumentalisé, et qui, pour lequel il faut fournir de nouveaux outils. Par exemple, des outils qui vont permettre de pratiquer des technologies politiques sur le web. Aujourd'hui, le web est très nivelant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, d'outils de polémique, de débat qui permettent de procéder à des votes, à des regroupements, à de la différenciation, parce que la technologie n'est pas suffisamment avancée. Le Web 3 ou le Web 4 va produire ces instruments-là, mais il manque aussi des concepts. Parce que nous vivons depuis une cinquantaine d'années, nous sentons venir quelque chose d'autre, mais les concepts qui permettent d'anticiper...
Il n'y a pas de philosophie, je le dis d'un petit poussette, justement.
Il manque une philosophie. Ils ne sont pas là, et ils sont en train d'émerger en ce moment même.
Mais concrètement, il y a quand même des transitions qui sont en train de se mettre en place, des transitions démocratiques. Quel regard vous portez sur ces transitions démocratiques qui sont en train de se mettre en place dans le monde arabe ?
Alors, dans le monde arabe, je crois qu'il y a... D'abord, le monde arabe n'est pas unique. Je veux dire, la Tunisie n'est pas l'Égypte, qui n'est pas l'Algérie, qui n'est pas la Syrie, etc. etc. Donc, c'est très... qui n'est pas l'Irak. Bon. Donc, le monde arabe est un monde très diversifié, qu'on a tendance à appréhender comme l'islam. C'est une grave erreur. D'abord, en plus, il y a des islams, il n'y a pas qu'un islam, et tout le monde n'est pas islamique ou islamiste dans le monde arabe. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, c'est une espèce de... comment dire... de vectorisation de territoire et de civilisation par une accélération technologique au sein desquelles la maturation institutionnelle, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui a fini par se discréditer, ne s'est pas jouée du tout dans les conditions de l'Occident.
Je crois que le printemps arabe aussi est la conséquence de cette mutation anthropologique dont nous avons parlé tous les deux et qui a mis un certain temps. Elle nous a touchés, disons, dans les années 70 à 2000, et ça touche le monde arabe avec un peu de retard, mais c'est à peu près les mêmes causes qui donnent à peu près, en fait, d'autres effets, bien entendu, puisque ce n'étaient pas les mêmes politiques, mais c'est les mêmes causes qui sont en train de jouer. Il n'y a pas de doute à la fois technologique, économique, etc. Il n'y a pas de doute.
Les résultats, évidemment, des élections diverses qui ont eu lieu dans le monde arabe, du printemps arabe récent, ont suscité beaucoup d'inquiétudes. Moi, il ne m'inquiète pas tant que ça, je dois vous dire. Je pense qu'il est normal, il est absolument naturel que dans des sociétés où la religion islamique qui n'est pas islamiste toujours. Et moi, je crois absolument qu'il y a des islamistes modérés. Je ne crois pas du tout que les islamistes modérés sont cachés, enfin, masquent des islamismes radicaux. Ça peut exister, bien entendu. Mais je pense que tout cela, il faut l'aborder comme le symptôme d'un discrédit et d'une réaction à une destruction de la croyance dans le monde occidental, qui est un fruit, là aussi, pourri, un fruit dangereux, qu'on va voir venir en Europe aussi, d'ailleurs, oui. Du discrédit qu'a engendré le consumérisme.
The people who love this country, the citizens of the United States of America, can do to change it. That's what this election is all about. Yes, we can.
Ce qui s'est passé était une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Est-ce que c'était une faiblesse ? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale.
Les Français doivent bien voir qu'il y en a un qui est dans l'action, c'est Nicolas Sarkozy, qui a l'expérience et la solidité pour cela, alors que d'un autre côté, vous avez M. Hollande qui vous dit quoi ? Qu'il faut réenchanter le rêve ? On n'a pas besoin aujourd'hui d'un magicien.
Bernard Stiegler, on n'a pas besoin aujourd'hui d'un magicien, comme le prétend Xavier Bertrand ? Non, comment réenchanter la politique?
On a besoin de prospectivistes, de gens qui croient à la politique, qui croient dans l'économie, qui croient à l'avenir de la France et de l'Europe. Réenchanter le monde, c'est le titre d'un livre que j'ai co-signé avec l'association Ars Industrialis.
Mais oui, c'était aussi une phrase de Laurence Parizeau, la présidente
absolument,
du MEDEF,
hein,
qui effectivement avait intitulé l'université d'été 2005 des chefs d'entreprise « Le réenchantement du monde ». Et d'ailleurs, votre livre « Réenchanter le monde » effectivement est une sorte de réponse, parce qu'il s'agit pour vous de sauver le capitalisme de ses penchants populistes par l'invention d'une sorte de « European way of life » en instaurant un nouveau modèle industriel, notamment Bernard Stiegler.
Il est indispensable de réenchanter le monde. Le désenchantement du monde, beaucoup de gens pensent que c'est Marcel Gauchet qui l'a pensé. Bon, c'est un titre de Marcel Gauchet, mais c'est une expression de Max Weber. Et le désenchantement du monde, c'est un paradoxe du capitalisme qui n'est pas une contradiction interne à la façon dont Marx pouvait le penser, mais une aporie du capitalisme que Max Weber avait mise en évidence, à savoir que le capitalisme, qui est d'origine religieuse et spirituelle, conduisait inévitablement à la sécularisation, à la laïcisation du monde, et surtout à sa rationalisation au sens négatif du terme, c'est-à-dire à l'application d'une computation aveugle, de calculs aveugles qui détruisent l'incalculable. Et l'incalculable, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
Mais là, dans cette année électorale, on parle plutôt de réenchanter la politique, et non pas réenchanter le monde, ça serait encore mieux, mais de réenchanter la politique dans une période où on peut quand même se poser la question, effectivement, de la crise, de l'expérience démocratique, d'une certaine défiance de la société civile vis-à-vis de la politique.
Mais réenchanter la politique, ça veut dire réenchanter le monde. Parce que la politique ne parle que du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire réenchanter le monde? Pour moi, ça veut dire réenchanter l'économie d'abord. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde économique où l'économie a une place extrêmement grande et ça continuera, ça ne s'arrêtera pas du tout. Mais il faut réinventer l'économie. Et qu'est-ce que ça veut dire le réenchantement de l'économie? Ça veut dire remettre la motivation au cœur de l'économie, remettre le désir au cœur de l'économie. On a entendu M. Strauss-Kahn. Beaucoup de gens, j'ai lu dans beaucoup de journaux, le désir de M. Strauss-Kahn qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est justement le contraire, il n'avait pas de désir. Quand vous êtes pulsionnel, c'est que vous n'avez pas de désir. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne trouvez pas d'objet sur lequel votre désir se fixe. Il en va exactement de même des spéculateurs. On n'arrête pas de nous parler des investisseurs. Des investisseurs sociaux, mais ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des spéculateurs, parce qu'ils sont dans le désinvestissement. Une économie où on n'investit plus ne peut plus fonctionner. Et donc, la financiarisation dont nous parlions au début de cette émission, qui a été induite par un choix qui a été celui de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, consistait à dire les pays émergents, le postcolonialisme va induire un transfert de toutes les unités de production dans des pays périphériques de l'Occident. C'est une très bonne chose, ça diminuera le coût du travail, ça augmentera nos profits. Financiarisons l'économie et séparons la finance de l'investissement. À partir de là, le capital est devenu spéculatif structurellement. C'est d'ailleurs le problème de M. Cameron actuellement en Angleterre, parce qu'il sait très bien que le capital spéculatif ne peut plus fonctionner. Or, l'économie anglaise est massivement spéculative. Donc, il y a un énorme problème pour l'Angleterre. À partir de là, ce que je dis, moi, avec l'association Ars Industrialis, c'est qu'il faut reconstruire de l'investissement. Et que nous sommes dans une période de transition entre deux modèles économiques et qu'il faut parler clairement aux Français. Dans cette campagne électorale, il faut leur dire « Nous savons très bien que vous êtes attaché au modèle consumériste pour mille raisons. D'abord parce qu'il vous fait vivre. C'est ce qui aujourd'hui fait tourner la marmite. Mais vous savez aussi, comme nous, que ce modèle n'a pas d'avenir. Donc, passons un contrat social et un contrat naturel au sein duquel nous allons faire une projection qui va réenchanter le monde sur 10, 15 ou 20 ans, et où nous allons obliger. Moi, j'ai été scandalisé qu'on donne de l'argent aux banques en 2008 parce qu'on ne les a pas obligés à réinvestir. On va obliger le capital financier à reproduire de l'investissement et non plus de la spéculation sur un projet. Moi, je soutiens que ce projet de la contribution est tout à fait réaliste, qu'il est d'ailleurs actif, y compris Google, c'est une entreprise qui fonctionne déjà sur ce modèle, et qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors, Michel Serres, vous partagez sans doute le constat de Bernard Stiegler, et vous, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, vous nous dites et vous expliquez dans vos ouvrages que nous vivons une telle coupure d'hominisation, nous sommes plongés au sein d'une telle hominiscence, comme vous dites, que beaucoup de nos institutions se trouvent comme ces étoiles dont nous recevons la lumière et dont les astrophysiciens nous disent qu'elles sont mortes depuis bien longtemps. Alors comment réenchanter la politique? Et selon vous, est-ce possible lors de cette année électorale avec ces petits arrangements aussi politiciens qu'il faut parfois trouver? Combinatoires diverses et variées.
C'est un petit point sur lequel je diffère un peu de Bernard Stiegler sur le moment, parce que l'idée que le monde a été désenchanté, je ne le comprends pas. Peut-être que la politique en effet a été désenchantée, mais le monde est un enchantement. le monde comme tel. Le monde, je veux dire, j'entends par le monde que je vois quand je vois une rivière, un glacier, une montagne, la mer, l'océan, les lacs, etc. Ce que j'ai appelé la biogée, c'est-à-dire à la fois la planète, c'est-à-dire la Terre et la vie, c'est un enchantement perpétuel. Par conséquent, ce monde-là n'a jamais été désenchanté, sauf par les gens qui ne le regardent pas.
Mais Michel Serres, en tant que citoyen...
J'ai été tout le temps enchanté par le monde, il suffit que de sortir le soir et regarder des étoiles. C'est un enchantement perpétuel.
C'est important de le rappeler, effectivement,
oui,
aujourd'hui.
Et la politique n'est pas le monde. La politique, c'est... Excusez-moi, Bernard, je suis un peu différent de vous sur ce point. Non, la politique, c'est un certain nombre de mises en commun et de communication et de décisions et de contrats que nous passons ensemble.
En effet,
nous n'avons plus confiance dans ce cirque-là.
De Barack Obama, des grands discours de Barack Obama qui ont après peut-être déçu dans la pratique.
Oui. Oui.
À la chute de DSK, un certain désenchantement
a eu lieu sur le terrain
plus politique.
Mieux, c'est-à-dire on a pris conscience en effet que cette société du spectacle était en effet sans intérêt. Vous voyez, tout le monde croit que c'est passionnant, mais non. Et là, on a raison de dire qu'il y a un désenchantement de la politique, et bien pire que ça. Pas seulement, mais un dégoût. Par exemple, à propos de la spéculation dont parlait Bernard Stiegler, je voudrais quand même souligner que aujourd'hui, on spécule sur les produits alimentaires. Alors là, c'est épouvantable. C'est-à-dire, on multiplie les chances de famine dans le monde, et on multiplie la dénutrition. Alors ça, c'est un scandale humain abominable, vous voyez. Ça, c'est là, vraiment, à ce niveau-là, la spéculation, non seulement c'est pas un désenchantement, mais c'est un profond dégoût qui nous prend à voir ce spectacle-là.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Les Retours du Dimanche. Excellente année 2012. Je voudrais rappeler les ouvrages de nos invités. Michel Serres, vous avez récemment publié Habiter aux éditions du Pommier, et Bernard Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, aux éditions Flammarion.
C'était une émission France Culture Le Monde, produite par Agnès Chauveau et Nicolas Truong. Merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. Nathalie Salle à la réalisation, à la technique Clotilde Thomas, et pour la documentation et les archives sonores, Avril Ventura. Et bien sûr, pour bien commencer l'année, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Restez à l'écoute, dans quelques instants, le journal de France Culture. Is about sleeping. I think my mate slept with you when you were in Portugal. She's broken all her promises and found another place to sleep. He's a little boy that never thought about the consequence. About sleeping, I think my mate slept with you when you're in Portugal. Is about sleeping, I think.